Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH d'une boîte pas comme les autres, la compagnie Alexis Grus. On sera dans un instant avec Firmin Grus. Et puis, on va parler des violences faites aux femmes. Quel est le rôle de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif? On sera dans un instant avec le responsable performance au travail d'EDF et une avocate en droit du travail. Le syndrome de l'imposteur, est-ce que vous en êtes encore victime? Comment l'identifier? C'est la question qu'on posera à Pierre Monclos tout à l'heure. Il est DRH de Youno. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et on va parler des entreprises familiales, de leur capacité à intégrer des collaborateurs de l'extérieur et aussi à leur capacité peut-être de laisser leur famille faire autre chose. On est avec Firmin Grus. Bonjour, vous êtes directeur général de la compagnie Alexis Grus. 24 artistes, 50 chevaux, un orchestre, une chanteuse, un spectacle incroyable. Beaucoup de membres de la famille, mais aussi beaucoup de membres de l'extérieur. C'est quoi à peu près la répartition?
Alors, répartition, il y a un noyau dur, c'est la famille, c'est 15 personnes.
Ouais.
Et sachant que dans l'entreprise, on est à peu près 80, sans compter les 50 chevaux, ça fait une bonne proportion quand même.
Donc finalement, la proportion de la famille est plus faible que la proportion globale de l'entreprise. Qu'est-ce que vous dites à vos collaborateurs extérieurs? Vous dites qu'il faut rentrer dans la famille ou finalement ça fonctionne comme une entreprise classique?
Alors, on parle de compagnie, ça fédère énormément les collaborateurs. Ils n'ont pas cette image de la famille. Nous, on n'aime pas cette image de la famille d'ailleurs sicilienne, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une
pourtant
mafia.
Vous cultivez quand même.
Non, c'est pas une culture, c'est une tradition chez nous. Je pense que la famille est devenue quelque chose de spécial, de particulier, alors que c'est ce qu'il y a de plus naturel sur la Terre. Papa, maman, les enfants, c'est pas difficile.
Oui, mais dans une entreprise, ça fonctionne justement. Il n'y a pas papa, maman et les autres.
On a justement cet exemple de papa, maman qui sont nos idoles et nos maîtres et nos professeurs, etc. Et ensuite, quand on les voit sur la piste, on a envie de leur ressembler. Étant enfant. Et quand on a la capacité et le pouvoir d'accéder à ce rêve, eh bien forcément, on n'a pas envie de faire autre chose.
Donc pour vous, ce n'est pas des chefs, c'est des rôles modèles?
Bien sûr. Moi, j'ai mes parents aujourd'hui dans l'entreprise. J'ai mes enfants, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur. Il y a tout un univers. Il faut que chacun trouve sa place. Déjà, ça, c'est la chose la plus importante. Mais dans une famille aussi, si on n'a pas sa place, on ne se sent pas bien.
Mais comment on trouve sa place, justement, quand on ne fait pas partie de la famille et qu'on est... Est-ce que vous avez un DRH, un directeur marketing? Vous avez une structure classique?
Bien sûr. C'est 80 salariés, c'est une administration, c'est des musiciens, c'est des palefreniers, c'est des mécaniciens, c'est des cuisiniers, c'est service d'accueil, la billetterie. Il y a tous les métiers. C'est ça qui est dingue dans notre compagnie.
C'est quoi votre principal argument pour attirer?
La passion. Moi, je dis, en ce moment, c'est je m'aperçois que les gens oublient qu'il faut vivre par passion et non pas par critères de financiers, par critères. D'ailleurs, on voit, les gens sont perdus parce que on les a tellement habitués à leur dire tu vas faire de grandes études, tu vas accéder à tel niveau de responsabilité avec telle compétence et tel salaire dans telle ville. La vie, elle est toute tracée. Nous, dans notre métier, c'est pas tracé. C'est à nous de créer notre parcours.
Alors, vous dites quoi à ceux qui auraient l'envie de vous rejoindre? Comme dans toute entreprise classique, il y a les fameuses soft skills, c'est-à-dire les compétences. Vous aimez le service, on va vous former. Vous aimez les animaux, on va vous former.
Je vais vous donner déjà mes premiers points de vue sur le côté RSE qui est aujourd'hui à la mode dans les entreprises. Chez nous, il a toujours été là. On le met peut-être en valeur aujourd'hui, mais le côté bienveillance, quand on est sur les chevaux, nous, en équilibre, en pyramide, avec mon frère, ma sœur, mes neveux, on est tous attentifs les uns aux autres. Et en dessous, les porteurs, ce sont nos chevaux. et on a les chevaux qui rythment notre vie aussi. C'est-à-dire qu'ils ont, on a besoin d'être là en permanence auprès d'eux pour leur apporter la nourriture, les soins, le travail, la quantité, la gymnastique. C'est tout un ensemble qui fait que le bien-être animal, encore une fois, quand on parle de RSE, on peut parler de bien-être animal. Eh ben, le bien-être animal, il passe par la juste quantité de travail, la nourriture, la bonne litière, les caresses. C'est un ensemble de choses. Il n'y a pas d'utopie. Le cheval en liberté dans un champ, il n'est pas plus heureux qu'ailleurs. Ce qui le rend heureux, le cheval, c'est son activité et sa vie.
Vous voulez dire qu'en tant que... Alors, je sais que vous ne voulez plus qu'on dise cirque, vous voulez qu'on dise compagnie. Mais le fait de bouger, d'être au départ un cirque, vous pensez que ça vous a fait prendre conscience de l'impact même environnemental sur votre environnement direct? Parce qu'à chaque fois qu'un cirque arrive quelque chose, il change l'endroit où il arrive, ne serait-ce qu'en termes de revenus, de tourisme, etc.
Alors, pourquoi je ne dis pas cirque? Parce qu'aujourd'hui, le mot cirque veut tout dire et rien dire. On a du cirque contemporain dans les théâtres à Paris, on a du cirque dans les rues d'Avignon, on a du cirque du soleil à Las Vegas. Et nous, ce que l'on fait, c'est l'art de la piste. C'est cet espace scénique de 13 mètres de diamètre, en terre et en sur, dont les chevaux et les saltimbanques évoluent sur le même espace scénique. Donc ça, c'est vraiment notre ADN. La particularité chez nous, c'est en plus d'avoir tous les artistes membres de la famille. Donc ça crée un ADN incroyable. Et après... quand vous êtes, comme nous, créateurs, artistes créateurs, on élabore les spectacles, on forme les chevaux, on forme les artistes, les costumes, les décors, les musiques, les lumières, tout est écrit, un peu comme à l'Opéra de Paris ou à la Comédie Française, les artistes se remettent en question en permanence. Donc cette philosophie-là, déjà, elle a cette mouvance, cette remise en question permanente. Et après, dans l'entreprise, on garde cette dynamique parce qu'elle est formidable. Qu'est-ce que les salariés, qu'est-ce que les collaborateurs ont envie aujourd'hui? De ne pas avoir de routine, de ne pas avoir de lassitude. Et nous, notre itinérance, par exemple, elle est basée sur 6 mois à Paris, d'octobre à mars. Après, on est dans le Vaucluse, là, à Piolenc, dans notre quartier d'été. Et puis, on va aller à Béziers faire les Folies Grusses estivales. C'est dans un champ en plein air, à ciel ouvert, juillet et août. Et après, on va revenir à Paris. Déjà, ça, c'est déjà énormément de travail. En plus de la partie artistique, d'être comme ça itinérant sur trois sites.
Tout le monde suit ou vous avez aussi vos fonctions support à vous qui sont en télétravail quelque part?
On a beaucoup évolué, mais c'est vrai que cette période de Covid, elle a été bénéfique pour s'adapter.
Ouais.
Le télétravail, ça passe très bien. Le moyen de... C'est vrai qu'on avait peur un peu de se manquer au départ quand on avait ces formules. Et puis, en fait, tout le monde a pris aussi l'habitude de travailler un peu chez soi. On n'a pas forcément envie d'aller dans un bureau tout seul ou à deux.
Ça, vous pensez que vous, sur votre organisation interne, ça a presque été bénéfique?
Oui. Oui, oui. Parce que, je vous dis, il y a une remise en question permanente et ça nous a aidé à la mettre en place.
Est-ce qu'on peut être un enfant grusse et faire autre chose?
Oui, ça, on a deux exemples dans la famille. Mes neveux, qui sont en train de faire leurs études, parce qu'ils ont voulu aller voir un petit peu comment ça se passait ailleurs. Vous savez, nous, ce qu'on fait avec les enfants, on leur donne... Ils ont les cours par correspondance, ouais. Ils ont la formation en parallèle. Et puis, à l'âge de 18 ans, on veut qu'ils aient le bagage et qu'ils aient le choix. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais d'aller voir ailleurs, ça n'a jamais été mauvais pour qui que ce soit. Il faut, justement...
Il peut y avoir un aller-retour?
Mais bien sûr.
On fait autre chose, on revient.
Mais il y a beaucoup d'exemples. On imagine toujours que les carrières sont des carrières droites d'un trait ou que la réussite, c'est forcément une réussite programmée. Non, il y a aussi le hasard.
Mais d'autant plus quand on est dans un cocon familial comme le vôtre.
Oui, ben, nous, ce qui nous fait rester, ce qui nous fait souvent chavirer, c'est les ovations du public, cette émotion, le poil qui se dresse, l'émotion. Voilà.
Vous avez fait évoluer votre stratégie économique. Vous êtes toujours un pré-chaud, c'est une très grosse machine. C'est quoi votre prochain but, votre prochaine évolution de la compagnie?
Ben, j'ai repris la compagnie en 2019 en tant que gérant avec mon frère et ma sœur. Mon frère qui est directeur artistique et ma sœur directrice de la cavalerie. Je leur ai dit, moi, ce qui m'importe, c'est pas de savoir que Alexis Grusse est arrivé avec Sylvia Montfort en 1974 jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est notre passé, c'est nos racines. Ce que je veux savoir, c'est comment sera notre métier les 50 prochaines années, le prochain siècle. Parce que dans la société qui évolue à une vitesse fulgurante, où va être la place des chevaux et où va être la place des artistes? Donc c'est ça ma...
Vous avez carrément une vision à un siècle.
Oui. Bah oui, parce que je pense que les choses vont assez vite et on ne va pas marcher.
Justement, vous pourriez avoir une vision à 3 semaines, puisque ça va très très vite.
Oui, mais à 3 semaines, non. Je pense qu'il faut, quand Christophe Colomb il est parti, il avait un cap. Hein. On peut pas partir dans la vie sans cap. C'est difficile si vous changez de cap en permanence.
Mais quand vous dites ça à vos salariés, ils se disent quoi, que vous êtes dingue ?
Non, ils sont parfaitement ravis parce qu'ils savent que c'est pas... Nous, on n'est pas dans une start-up. Je veux dire, moi, mon objectif, je vous l'ai dit au début, c'est pas de gagner beaucoup d'argent très rapidement. C'est de permettre à des générations de pouvoir encore voir ce savoir-faire.
Vous recrutez qui, là, à court terme?
C'est ce qu'on appelle, moi, j'appelle ça la tradition, le patrimoine, la culture.
Vous recrutez qui dans les prochaines semaines? Vous avez besoin de qui?
Là, on a besoin de qui? On a besoin de qui? On a besoin de managers en restauration.
Ouais.
Parce que toute la partie Folie Grusse, c'est on fait déjeuner ou dîner entre 200 et 500 personnes avant le spectacle.
Ça, vous n'êtes pas le seul à chercher des managers en restauration.
Moi, bon, après le côté original, côté 6 mois à Paris, 6 mois l'été, on a de la restauration food truck avec des burgers, des fish and chips, des huîtres, des choses assez simples de qualité. Après, c'est quelqu'un qui a envie d'une nouvelle expérience. On l'attend.
Allez-y, c'est ouvert. Merci beaucoup, Firmin Grus, directeur général de la compagnie Alexis Grus. On va parler des femmes et de la violence et du rôle de l'entreprise.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
C'était en début de semaine la journée internationale du droit des femmes. On va parler de la lutte contre les violences conjugales. Quel peut être le rôle de l'entreprise? Une femme sur 10 est victime de violences. 62% d'entre elles sont salariées. Le risque, la probabilité qu'un employeur soit donc confronté au problème est importante. On est avec Eva Touboul. Bonjour, vous êtes avocate en droit du travail. Avec nous en duplex, Jean-Baptiste Aubéniche, responsable du pôle diversité, inclusion et performance au travail chez EDF. Jean-Baptiste, on vous a fait venir parce que vous, chez EDF, vous avez décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Vous avez ratifié une sorte de convention qui vous oblige à vous intéresser à ce problème. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que nous, en tant qu'EDF, on aille voir, parce qu'il y a une partie évidemment d'intime, on aille voir presque dans l'intimité de nos femmes qui travaillent dans notre entreprise?
On a commencé en 2017 parce que, vous l'avez dit, les statistiques sont affolantes. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales au cours de sa vie. Ça veut dire que nous, on a un tiers de femmes dans notre entreprise. Et donc, ça veut dire qu'ici et maintenant, il y a des salariés d'EDF qui sont victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Alors, on rentre pas dans l'intimité. On propose un dispositif pour les accompagner, pour leur permettre... de sortir de cette situation de violence et de pouvoir vivre à la fois leur vie de femme, leur vie propre, et d'avoir leur vie de salarié. Je prendrai juste un exemple.
Allez-y.
Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on était le 17 mars 2020, le confinement commençait, on a été alerté sur une situation un matin d'une de nos collègues qui souhaitait quitter le domicile conjugal. On a mis en lien avec une association, on a mis en route notre dispositif d'accompagnement, et le soir même, elle était relogée, de façon à pouvoir passer un confinement serein, loin de son conjoint qui la maltraitait.
C'est quoi votre dispositif ?
Alors, on a un dispositif qui est simple. C'est un dispositif qui est fait de sentinelles qui sont formées aux questions d'emprise et aux questions de violence conjugale. Ces sentinelles, c'est des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, c'est nos médecins du travail, des organisations syndicales, des RH et des managers qui sont sensibilisés, formés pour comprendre cette question. C'est aussi un réseau d'associations. On a un partenariat avec l'association Une femme, un toit de Séverine Lemierre. Et puis, on travaille avec les centres d'information des femmes et des familles très locaux dans chacun des départements. Et lorsqu'on a une situation, on met en relation nos collègues. Et puis, si jamais elles quittent le domicile conjugal, on les accompagne dans leurs premiers pas, notamment pour le relogement, si elles n'ont pas de solution. Et puis, l'entreprise a un rôle propre. S'il faut changer leur numéro de téléphone professionnel pour éviter que leurs conjoints les harcèlent, on change ce numéro. S'il faut changer l'email, on change l'email. S'il faut domicilier le salaire, virer le salaire sur un nouveau compte en banque de façon à ce que leur conjoint n'ait pas accès à cette rémunération et qu'elle puisse jouir de leur propre rémunération, eh bien, on le fait aussi. Donc, on a une dimension concrète que l'entreprise peut jouer. En fait, notre réflexion, c'est ça. On a des collègues qui peuvent être victimes de violences conjugales. Mmh. Et nous, on met des actions concrètes qui sont à la main de l'entreprise. On ne se substitue pas au pouvoir public. Notre collègue, si elle doit porter plainte, elle va porter plainte. C'est pas nous qui portons plainte. Mais nous, on joue notre rôle d'entreprise, d'employeur, et puis solidaire avec nos salariés.
Eva Touboul, Jean-Baptiste Aubéniche nous l'explique, on ne porte pas plainte, on n'est pas un service juridique, on n'est pas l'État. Justement, l'entreprise, elle est dans quel cadre juridique ?
Alors, l'entreprise, elle est prise entre deux feux. Juridiquement, elle a, comme vous le savez, une obligation de sécurité envers la santé de ses salariés. Un salarié ne doit pas sortir de l'entreprise en plus mauvais état qu'il y est rentré, si ce n'est l'usure normale du temps, etc. Et elle est prise dans une deuxième obligation, qui est le respect de la vie privée de ses salariés. La France a une tradition de très grand attachement à la vie privée en général, et plus précisément à la vie privée de ses salariés. Un email pro, un email perso, vous avez fleuve de jurisprudence sur ces sujets. Facebook, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso? La religion, est-ce que c'est pro, est-ce que c'est perso? Tous ces sujets, la France, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est à trancher ces éléments. Et s'agissant du travail, jusqu'à la Covid, la loi, la jurisprudence faisait un peu l'autruche, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait le sacro un principe de la vie privée et que l'employeur ne devait pas passer la porte du domicile. Sauf que depuis la Covid-19, le confinement et le télétravail généralisé, l'employeur ne peut plus faire l'autruche.
L'employeur a passé la porte, en fait.
Il a passé la porte puisque il a demandé à ses salariés de travailler chez eux. Le lieu de domicile est donc devenu un lieu de travail. On vous donne une connexion Internet, on vous donne un téléphone portable, on vous donne un ordinateur portable, on vous donne vos instructions à distance, vous faites des zooms dans votre salon. Donc aujourd'hui, la maison est devenue un lieu de travail. Il y a une interpénétration des deux. On travaille à la maison et on vit dans l'entreprise. Donc on ne peut plus faire l'autruche. Et partant de là, et c'est la raison pour laquelle la France a ratifié le 8 novembre dernier, la Convention de l'Organisation internationale du travail, qui porte sur les violences conjugales sur les violences au travail, sur l'éradication du harcèlement et de la violence au travail. Sauf que cette convention est allée plus loin en disant c'est dans tous les lieux où on travaille, même si c'est un lieu privé ou un domicile, et elle prend en compte les violences intrafamiliales en ce qu'elles se répercutent sur le travail.
Est-ce qu'on peut, ça veut dire se retourner contre son entreprise aussi en disant vous n'avez pas vu, parce qu'il y a toujours le fait de parler, de dire qu'on a un problème.
Il n'y aura pas non-assistance à personne en danger, ou il n'y aura pas non-dénonciation de faits fautifs, sauf si vraiment... Mmh. Alors il y a des cas notamment qui peuvent se passer chez EDF, c'est lorsqu'il y a des couples d'agents.
Oui. Donc les deux travaillent dans l'entreprise,
pas forcément dans le même service, mais ils ont pu se rencontrer à l'occasion du travail, se marier, évoluer dans une vie de couple.
30% des couples se font dans le cadre du travail.
Exactement. Donc, par exemple, EDF n'y fait pas exception. Et la jurisprudence dans ce type de dossier est assez tiède, et elle était venue dire, bon, ok, on peut peut-être sanctionner un salarié qui aurait frappé sa conjointe sur le lieu de travail, parce qu'ils travaillent ensemble, si et seulement si cela apporterait dans l'entreprise un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Très tiré par les cheveux. Et bien maintenant, avec le télétravail généralisé et la convention de l'OIT, on ne peut plus faire semblant et on considère que les violences intrafamiliales, eh bien, elles ont débordé sur le travail, puisque le travail a lui-même débordé sur le familial, et que cette interpénétration fait que l'employeur rentre indirectement dans la vie de couple de ses salariés. Sans le vouloir, bien évidemment, sans que ça viole la vie privée. Il n'a pas à déposer plainte. On ne plaide pas par procureur en France. C'est pas à lui de déposer plainte pour la salariée. En revanche, l'assistante sociale, comme c'est le cas chez EDF, va avoir, dans le cadre des entretiens qu'elle a avec les salariés qui sont couverts par le secret professionnel et le secret médical, elle va avoir accès à des informations, et c'est là où elle va dire, notamment chez EDF, vous savez que vous avez des outils à votre disposition pour sortir de cette situation.
Jean-Baptiste Aubéniche, ça n'est jamais reçu par l'ensemble des salariés comme un peu de quoi je me mêle. Que vient faire l'entreprise dans cette histoire ?
Non, on n'a pas eu du tout ce type de réaction. En fait, sur les trois dernières années, on a accompagné 363 salariés, une tous les trois jours.
Ah oui, c'est beaucoup.
Donc, c'est vous dire que le dispositif est important, que ce dispositif répond à un besoin. Ça ne signifie pas qu'on fait de l'inquisition et qu'on rentre dans le foyer du salarié. Simplement, quand il y a une personne qui est sous emprise, on met en place un dispositif qui lui permet progressivement, à son rythme, c'est pas nous qui définissons le rythme, de sortir de cette emprise-là. Donc on met
363 salariés. Le chiffre paraît énorme comme ça.
Oui, c'est important.
Une femme. C'est-à-dire que chez vous, donc le potentiel dans l'ensemble des entreprises est très important, quoi. Le rôle à jouer.
Le potentiel de la population française, on est le reflet de la population et nos salariés, comme l'ensemble des femmes dans la population française, peuvent subir des violences conjugales et intrafamiliales.
C'est donc un sujet à suivre de très près. Merci beaucoup Jean-Baptiste Aubéniche d'avoir été avec nous, responsable du pôle diversité, inclusion et performance au travail chez EDF. Et merci beaucoup à Eva Touboul qui nous a alerté sur ce sujet qui va donc devenir a priori fondamental dans les entreprises, ne serait-ce que sur des sujets aussi d'attractivité et de bien-être de l'ensemble des salariés. Vous êtes avocate en droit du travail. On va parler du syndrome de l'imposteur.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business case.
Comment se sentir bien à son poste, légitime, en forme? C'est la question qu'on va poser à Pierre Monclos, DRH de Youno. Bonjour. Vous avez écrit une tribune portant sur le syndrome de l'imposteur. Je croyais que c'était terminé.
Bonjour Laure.
Que tout le monde avait dépassé ça.
Alors non, c'est pas terminé. Hein. Les études montrent qu'entre 50% et 70% des personnes en entreprise passent par le syndrome de l'imposteur à un moment de leur vie professionnelle. Donc on a plus d'une personne
sur deux. Ça peut arriver à un moment d'une carrière. C'est pas linéaire, c'est pas le début, c'est pas un truc de débutant.
Non. Voire même au contraire, puisque parfois c'est quand on commence à être bon dans un sujet qu'on découvre tout ce qu'on maîtrise pas encore parce qu'on a commencé à découvrir un domaine et qu'on se dit mais en fait je suis pas bon du tout à mon poste, dans mon métier. Et c'est ça le syndrome de l'imposteur, c'est se dire je me sens pas à ma place parce que je considère pas la confiance qu'on a à mon égard quand on m'a mis sur tel projet ou quand on m'a positionné sur tel poste. J'ai peur de pas réussir parce que je pense que j'ai pas les capacités et dans les cas extrêmes, j'ai peur que les autres s'en aperçoivent, que je sois démasqué ou on se dise mais pourquoi est-ce que moi j'ai eu cette peur.
Mais c'est presque normal de douter, ça protège aussi du melon.
Dans une petite limite, oui, parce que ça c'est un bon équilibre pour être humble, mais quand c'est à l'extrême et qu'on a un doute récurrent, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a un doute récurrent sur ses capacités professionnelles, ça a des effets néfastes. Ça en a deux. Le premier, c'est qu'on peut finir par s'épuiser professionnellement, parce que vu qu'on se sent pas à sa place, on va se surinvestir pour compenser. Et si on surinvestit, mais sans arriver à faire le lien entre ses actions et la réussite, bah ça, à la longue, ça mène à l'épuisement professionnel. Donc, personne ne veut de ça. Et en plus, on progresse moins. Parce que si on n'arrive pas à faire le lien entre ses propres actions et les succès qu'on obtient, on connaît pas bien ses points forts. Et pour progresser, pour s'appuyer sur ses points forts, ça marche pas. Donc on n'est pas dans une dynamique de progression et on risque de stagner.
Qu'est-ce qu'on fait pour lutter ?
Alors, déjà, on dénonce le syndrome de l'imposteur. On se dit pas que ça peut être favorable dans les entreprises parce que certains vont se surinvestir. Ça, c'est faux. Donc, on adresse ce tabou pour dire on arrête avec le syndrome de l'imposteur.
C'est-à-dire qu'on dit, si vous êtes à ce poste, tous, c'est parce que vous avez la légitimité de l'avoir et qu'on vous fait confiance.
C'est ça. On prouve qu'on a confiance. Et ça se fait de deux manières. Ça se fait au niveau des individus et au niveau de l'entreprise. Au niveau des individus, on aide les individus à développer des compétences qui vont les aider à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur pour qu'elles se sentent à leur place. Parce qu'on leur a fait confiance, sinon on leur aurait pas donné le poste. Ces compétences, il y en a trois principales. La confiance en soi, l'intelligence émotionnelle et la capacité à recevoir des feedbacks. Si on entre un tout petit peu dans les détails, aider une personne à développer sa confiance en elle, c'est l'aider à s'attribuer des mérites sur des succès qu'elle obtient par ses actions, pour qu'elle puisse se dire « Ok, en fait, c'est grâce à mes actions et c'est pas grâce à de la chance ou de l'aléa ou à d'autres personnes que ce projet aboutit. »
Il faut prouver, en fait, qu'on est bon presque par des...
Il faut se le prouver. Ouais. En fait, il faut aider les personnes à se le prouver. Il y a un exercice tout simple qui consiste à lister les actions qu'on fait dans un projet ou dans un métier, lister les réussites, et c'est un exercice qu'on peut faire tout seul, d'essayer de faire des liens. Alors au début, on n'en trouve pas beaucoup, donc on va demander de l'aide et des feedbacks à d'autres personnes. Et puis au fur et à mesure qu'on progresse, on en verra de plus en plus. Et donc là, on commence à sortir normalement un peu du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est sur la partie confiance en soi.
Ouais.
Sur l'intelligence émotionnelle, maintenant que les entreprises ont arrêté de dire que les émotions n'avaient pas leur place en entreprise, si elles ont leur place en entreprise, c'est s'autoriser à écouter ses émotions et pas juste sa raison quand on prend un risque ou quand on prend une décision. Si on a trop peur parce qu'on ne se sent pas à sa place, on n'osera pas prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, on ne va pas progresser, on ne va pas avoir des succès plus rapidement qu'escompté. Et donc d'écouter des sentiments ou des émotions comme la colère, la surprise, ça va aider à pas avoir un raisonnement trop rationnel, donc à écouter ses émotions et donc à commencer à se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on se refera confiance, on se dira tiens là j'ai eu une bonne intuition par exemple.
Mais j'ai l'impression à vous entendre qu'il faut s'en débarrasser individuellement du syndrome de l'imposteur, mais qu'il faut que l'entreprise aussi arrête de penser que c'est positif pour son collectif, parce qu'en fait ça donne envie de se dépasser, et en fait non.
Ah, complètement. Ben, on le disait tout à l'heure, ça mène à l'épuisement et ça empêche les personnes de progresser. Donc, en fait, ça, c'est une logique un peu traditionnelle ou court-termiste. C'est le vieux management. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus ça dans l'entreprise, très clairement. Chez Uno, c'est notre conviction. Et donc, il faut aussi avoir un angle collectif pour se dire quel est le cadre qui fait que les personnes vont se sentir à leur place et avoir de la confiance. Le cadre, c'est une culture du feedback, mais du feedback positif, pas juste les feedbacks d'amélioration. Trouver des rituels qui vont permettre aux personnes inter-équipe ou entre-manager de se dire voilà tes points forts sur lesquels tu peux t'appuyer, et sacraliser le droit à l'erreur, ce fameux droit à l'erreur dont on parle depuis 10 ans. En fait, sacraliser le droit à l'erreur, parce qu'on parle du syndrome de l'imposteur, c'est dire aux personnes vous pouvez vous autoriser à prendre des risques, et si vous faites des erreurs, c'est pas que vous n'êtes pas bon. Au contraire, c'est comme ça que vous allez apprendre. On a besoin que vous fassiez quelques erreurs, mais arrêtez de considérer que les erreurs vont justifier d'un niveau que vous n'auriez pas.
Merci beaucoup Pierre Monclos, DRH de Uno, d'être venu dans Happy Boulot, le mag. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.